Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très heureux ce soir de vous accueillir ici, Station Ozone, pour cette soirée en partenariat Café Historique et Librairie Mola. Donc je remercie la Librairie Mola pour son invitation. Et nous sommes encore une fois encore plus heureux de recevoir pour nous, pour le Café Historique, pour la seconde fois, le professeur Yann Le Boeck, que nous avions eu le plaisir de recevoir l'année dernière pour un ouvrage traitant de l'histoire des guerres romaines. Alors l'histoire des guerres romaines, en fait, voilà un champ que vous avez défriché. Vous êtes professeur émérite d'histoire romaine à l'Université de Paris-Sorbonne. Donc on vous connaît pour tous vos travaux sur l'histoire de l'armée romaine en particulier. J'en citerai quelques-uns. L'histoire des guerres romaines, l'histoire de l'armée au Bas-Empire notamment. L'histoire militaire des guerres puniques. On traverse ainsi l'Italie en compagnie d'Hannibal et on remet les choses un petit peu dans leur contexte, dans leur vérité historique par rapport à tout ce qu'on a pu dire avec Hannibal. Mais aussi, je pense à Spartacus notamment. Et ces biographies historiques aussi me ramènent à César, pour lequel nous aurons le plaisir, dans le cadre du Café Historique, de recevoir à nouveau le professeur Le Boeck le 18 mai. Et d'une biographie à l'autre, voilà pour ce soir, nous vous écouterons pour évoquer en fait un personnage qui est connu du grand public, Lucullus. Disons Lucullus, ne sais-tu pas que Lucullus dîne chez Lucullus ce soir? Je pense que cette citation elle parle à beaucoup d'entre vous, mais en fait, que sait-on de ce personnage qui était un aristocrate romain, un homme remarquable pour bien des aspects. Et ainsi, vous allez nous faire découvrir tout au long de cette conférence les multiples facettes de ce personnage, général, gastronome et bien d'autres choses encore, et en même temps aussi ce monde romain du 1er siècle, ce monde très perturbé du 1er siècle avant notre ère. Donc, professeur Le Boeck, nous vous écoutons avec impatience et merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie. Je suis d'abord très heureux de me retrouver à Bordeaux, où je suis déjà venu une première fois dans le cadre d'un café historique, mais où j'étais déjà venu pour des jurys de thèse et différentes autres activités, puisque nous en sommes au remerciement. Maryse et Stéphane Barry m'ont accueilli avec beaucoup de gentillesse, et la librairie Mola, que je connaissais bien, nous accueille aussi et mérite mes remerciements. J'arrête là ces phrases de courtoisie qui n'en sont pas moins sincères pour vous parler effectivement de ce personnage qui était Lucullus. Et là, c'est le seul reproche que je puisse faire à Stéphane Barry, c'est qu'il m'a pris mon introduction. Je voulais vous dire donc que Lucullus est connu du grand public pour cette fameuse anecdote. Il rentrait chez lui et son maître d'hôtel ne lui avait rien préparé parce qu'il n'y avait pas d'invité. Lucullus n'était pas content et il le lui a fait savoir. Alors cette anecdote a fait des petits, si j'ose ainsi m'exprimer, puisque le nom de Lucullus est aujourd'hui attaché à des restaurants, à toutes sortes de produits liés à la gastronomie, et même à des boîtes de conserve, ce qui, à mon avis, aurait certainement fâché le vrai Lucullus. Mais bon, nous ne le lui dirons pas. Restons dans le domaine des gourmandises, et il y a aussi quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Et moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses en étudiant ce personnage, parce qu'il y a très peu de bibliographie qui lui ait été consacrée, ou elle est ancienne et incomplète. C'est que c'est lui qui a introduit en Occident les cerises comestibles. Il y avait auparavant, on connaissait des cerises, il y avait des cerisiers en Italie, mais qui donnaient des produits que personne ne pouvait manger. Et il a découvert au cours de ses expéditions des cerisiers qui donnaient ces produits que nous consommons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Donc, quand vous mangerez des cerises, pensez à Lucullus. Alors, bien entendu, comme l'a dit Stéphane Barry tout à l'heure, Lucullus n'est pas seulement un gourmand. C'est un personnage qui a eu un rôle politique, militaire et aussi intellectuel, et extrêmement intéressant, extrêmement important. Et justement, en préparant, en étudiant ce personnage, je me demandais mais pourquoi est-ce qu'on en parle si peu et que sait-on de lui exactement, j'ai fait quelques découvertes qui m'ont beaucoup étonné. Alors, reprenons le personnage avant le moment où il est devenu célèbre. Nous savons peu de choses de son enfance et de son adolescence. Il est né en 118, donc c'est un petit travail d'érudition qui permet de l'établir, 118 avant Jésus-Christ, bien entendu. Et il appartient, alors la première image, s'il vous plaît, il appartient, comme le montre cet arbre généalogique, à une famille noble, mais une famille de noblesse récente. Ce ne sont pas des patriciens, ce sont des plébéiens. Et le premier personnage de cette famille qui est atteint le consulat, c'est son grand-père, qui était consul en 151 avant Jésus-Christ. Son père n'est pas allé au-delà de la préture. Et vous remarquez dans cet arbre généalogique qu'il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Lucius, Licinius, Lucullus. Non seulement le personnage qui m'intéresse aujourd'hui, mais également son frère, son père, son fils, etc. Et donc, par commodité, quand on parle du grand Lucullus, on dit le consul de 74, ça le différencie de son grand-père, de son père, et de ses frères et de ses enfants. C'est une famille noble, de noblesse récente, ce qui n'est pas inintéressant, parce que ces gens de noblesse récente sont souvent plus attachés à leurs privilèges de noblesse que les gens de noblesse ancienne qui sont un petit peu blasés. Et d'autre part, c'est une famille qui est considérablement riche, très riche, ce qui lui a permis d'avoir chez lui dans la maison paternelle une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il a trouvé des ouvrages qui lui ont appris comment on organisait un combat, une bataille, une armée. Il avait tous les manuels de la guerre, qui sont en général des livres d'histoire. Si vous vous intéressez à l'art militaire des Romains, le meilleur livre, c'est la guerre des Gaules de César, et puis la guerre civile aussi. Vous trouvez tout dans ces deux ouvrages. Et là, bon, Lucullus n'a pas pu les avoir, mais il a eu d'autres ouvrages, notamment des ouvrages de grec, en particulier Xénophon. Cet argent, donc, lui a permis d'avoir une bibliothèque, lui a permis aussi d'avoir des maîtres parmi les meilleurs qui soient. Et nous savons, nous allons le voir tout à l'heure, qu'il a reçu une excellente éducation, que c'était un homme extrêmement érudit, qui parlait les langues vivantes de l'époque, c'est-à-dire le grec et le latin, et aussi bien l'une que l'autre, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il nous apparaît, né en 118, hein, vous voyez, il apparaît dans l'histoire pendant la guerre sociale qui a eu lieu de 91 à 88. Alors, cette guerre sociale, comme vous le savez, n'a rien de social du tout. On l'appelle sociale parce que c'est une guerre que les alliés ont menée contre Rome, et alliés en latin, c'est socii. Donc, c'est en fait la guerre des alliés de Rome contre Rome parce que ces gens estimaient que les Romains les exploitaient au combat, les envoyaient se faire tuer et ne leur donnaient pas assez de parts de butin. Le butin étant le moteur de tous les soldats de l'Antiquité et bien des siècles suivants. Alors, au cours de cette guerre sociale, il a été officier. Nous ne savons pas quel rang il a eu, sans doute tribun, c'est-à-dire commandant d'un millier d'hommes environ. Mais il a rencontré un personnage qui est connu, beaucoup plus connu que lui, qui est Sylla, Lucius Cornelius Sylla. Alors Sylla, c'est un personnage qui a été discuté, notamment Carcopino en a fait un défenseur du principe monarchique. Il y a un livre de Carcopino qui s'intitule « Sylla ou la monarchie manquée ». Et cette interprétation, j'ai beaucoup de respect pour Carcopino, bien entendu, qui en particulier écrivait très bien, mais l'interprétation de Carcopino n'est plus du tout accepté à l'heure actuelle. Il y a des livres de François Hinard, de Giovanni Brizzi, qui montrent qu'au contraire, que Sylla était un défenseur de l'aristocratie traditionnaliste. Et moi, je dois dire que ça m'arrange bien, parce que c'était tout à fait ce que voulait Lucullus, ce que recherchait Lucullus, qui n'était pas du tout un admirateur de la monarchie, mais au contraire de l'aristocratie. Alors, ils sont arrivés l'un et l'autre dans une période qui est troublée. Vous savez que de 133 à 31 avant Jésus-Christ, il y a eu toute une série de guerres civiles qu'un historien anglais a appelé la vengeance posthume d'Hannibal. Ces guerres s'expliquent par le fait que justement que les guerres civiles ont enrichi les généraux romains, c'est-à-dire les aristocrates, et ont au contraire ruiné les soldats de base, le légionnaire de base, qui était un petit paysan qui combattait loin de chez lui, abandonné sa maison, son domaine à une épouse. Et étant donné l'importance qu'avaient les femmes à cette époque du point de vue juridique, les domaines disparaissaient, étaient rachetés par les grands propriétaires, d'où une crise qui, contrairement à ce qu'on imagine parfois et ce qu'on a dit souvent pendant longtemps, n'oppose pas les riches aux pauvres. C'est complètement faux. Les pauvres dans le monde romain ne se sont jamais exprimés. C'est une crise qui oppose deux parties de l'aristocratie. Ce qu'on appelle les populaires, ce sont des gens qui veulent que les pauvres obtiennent un bout de terre. Et pour ce faire, ils proposent la loi agraire, une loi agraire qui prend aux grands propriétaires fonciers les domaines qu'ils ont usurpés sur le domaine public et les redistribue aux pauvres. Ça, ce sont les populaires, ce sont, si vous voulez, en quelque sorte, les nobles progressistes, ouverts sur la misère des autres. À l'opposé, vous avez ceux qui s'appellent les optimates, c'est-à-dire les meilleurs en latin, et qui pensent qui refusent le principe même de la loi agraire. Pour eux, il faut que l'État romain ne bouge pas, que rien ne change et qu'on ne prive pas. Ce n'est pas tellement une question d'argent, c'est une question de principe. Ce sont réellement, au sens premier du terme, des conservateurs. Ce ne sont pas des réactionnaires. Ils ne proposent pas de revenir à un État antérieur. Ils ne veulent pas entendre parler de la loi agraire qui, pour eux, est une nouveauté. C'est ça qui les scandalise. Donc, or, Sylla et du parti des optimates, et Lucullus très clairement aussi. Alors que les populaires ne soient pas des pauvres eux-mêmes, c'est parfaitement évident, contrairement à ce qu'on a beaucoup écrit. Les deux fondateurs de ce mouvement des populaires, qui étaient les deux frères Tiberius et Caius Gracchus, appartenaient au contraire à la meilleure société qui soit. C'était des nobles, des aristocrates. Tiberius Gracchus était le gendre du prince du Sénat, c'est-à-dire du premier des sénateurs. Donc ce ne sont pas des gens très simples, très modestes, mais ils pensaient qu'il fallait faire quelque chose pour les pauvres. Alors cette crise de la République, que vous trouvez analysée dans tous les manuels, à mon avis, n'est pas une crise qui est grave, qu'il faut prendre comme la crise du 4e, du 5e siècle, si vous voulez. C'est au contraire une crise de croissance. Elle est une conséquence de la guerre qui a enrichi les uns, appauvri les autres, mais elle représente simplement une étape dans un processus qui se caractérise par des guerres civiles et finit par donner un nouvel état dans lequel les antagonismes antérieurs sont dépassés. Auguste, qui est le fondateur de l'Empire romain, a su trouver de nouvelles mesures qui ont mis d'accord les uns et les autres. Alors, que ce soit une crise de croissance, c'est ce que montre aussi un examen de l'armée romaine à cette époque. Alors, je ne veux pas vous refaire toute l'histoire de l'armée romaine, ça nous amènerait jusqu'à demain matin et vous avez peut-être autre chose à faire d'ici là, mais je voudrais simplement dire que cette armée, l'armée romaine de cette époque, est la meilleure armée qu'ait connue l'histoire de l'humanité. Songez qu'en 4 siècles, elle a conquis tout le monde entier, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, et que cet empire qu'elle a créé, elle a su le conserver pendant 4 autres siècles. C'est, dans l'histoire de l'humanité, à mon avis, sans exemple. Tout à fait exceptionnel. Alors, ce qui explique cette efficacité, c'est tout un ensemble de facteurs, bien évidemment, le commandement qui est bon, les unités organisées, etc. Peut-être aussi le fantassin, le légionnaire. Il y a un point qui n'a pas été bien vu par les manuels, c'est qu'en réalité, le légionnaire, on en a des exemples illustres, nous avons ici des amis de la 8e Légion Auguste, le légionnaire de cette époque, le légionnaire romain, de la République ou du Haut Empire, c'est un char d'assaut, un vrai char d'assaut, un petit char d'assaut, mais un vrai char d'assaut. Il est extrêmement bien protégé, casque, cuirasse, bouclier, jambière dans certains cas, et il dispose d'une force de frappe qui est tout à fait exceptionnelle. Le fameux javelot appelé pilum, qui n'a pas d'équivalent dans aucune armée de l'époque, et puis le petit glaive court, le gladius, qui permet de frapper de taille et des stocks, comme on disait au Moyen-Âge, de la pointe et du tranchant, et qui provoque des blessures terribles. Et ce char d'assaut a subi un entraînement, une préparation qui est tout à fait exceptionnelle. Il manie de manière extraordinaire pour son époque. Je pense à un discours d'une reine que j'aime beaucoup, qui est la reine Boudica de Bretagne, qui aligne l'armée des Bretons contre l'armée des Romains. Et elle dit à ses soldats, mais vous, vous êtes des hommes courageux. Vous allez au combat avec la poitrine nue. Les Romains, ce sont des lâches. Ils se cachent derrière un bouclier, ils se cachent derrière une cuirasse. Enfin, c'est un très beau discours et très célèbre. Évidemment, ce que dit Boudica est très beau, et croyez bien que j'ai beaucoup de sympathie pour les Bretons, mais au combat, c'est le légionnaire qui est quand même le plus efficace avec son armement. Alors, c'est dans ce contexte qu'apparaît Lucullus, la guerre sociale comme officier. Qui est-il ? Eh bien, j'ai découvert un certain nombre de choses en cherchant à le connaître. Et j'ai découvert, bon, fondamentalement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un aristocrate. Aristocrate de tradition récente, donc il est encore plus attaché à la tradition que les aristocrates anciens. C'est un homme riche, de ce fait, et par les biens qu'il a hérités de sa famille. Et il a su faire fructifier ses biens au point qu'il est arrivé au pouvoir riche, dans la vie politique déjà riche. Et quand il en est parti, il était encore plus riche et beaucoup plus riche. On peut l'opposer, par exemple, à un homme comme César, qui a été pendant très longtemps pauvre, endetté, et qui finalement n'a pu se constituer une fortune que grâce à nos ancêtres les Gaulois, grâce à la guerre des Gaules et au butin qu'il en a retiré. Ce sont deux personnages tout à fait différents et tout à fait opposés. Donc c'est un aristocrate. Ce qui veut dire que il était obligé de se mettre au service de l'État. C'est ce qui caractérise le noble romain. Et ce noble romain s'est exprimé sur le terrain militaire. Nous en verrons des exemples tout à l'heure. Il a quand même vaincu deux rois. On verra ça tout à l'heure, le roi du Pont et le roi d'Arménie. Il a vaincu ces deux rois. Il a remporté beaucoup de batailles en rase campagne, beaucoup de sièges. Il s'est montré un bon général sur terre et un bon amiral sur mer. Nous allons voir tout ça tout à l'heure. Et c'est déjà une des premières découvertes que j'ai faites. Je m'attendais à voir un gastronome. Je découvre un militaire et qui, quand il faut faire la guerre, eh bien, est très capable de se priver, de prendre une nourriture, ce qu'il trouve comme nourriture. Il s'est mis au service de l'État non seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil. Il a exercé des magistratures, il a été gouverneur de province et il a légiféré, il a pris des lois qui sont restées pendant longtemps en honneur parce que l'État romain, les dirigeants romains, trouvaient que ces lois étaient bonnes, qu'elles étaient utiles. Et ça s'explique aussi, ça s'explique bien évidemment par la culture qu'il avait acquise, qu'il s'était donnée. Il a définit la composition légale de la famille, il a défini aussi ce qu'était l'usure illicite et il a pris des mesures contre cette usure illicite. C'est aussi un prêtre. Les nobles doivent servir d'intermédiaire entre les dieux et les mortels, et surtout les simples citoyens. Il a été, nous savons qu'il était particulièrement attaché, Fortuna, la fortune, avec un F majuscule, c'est une déesse, une abstraction divinisée. C'est cette déesse qui, quand elle était de bonne humeur, donnait aux uns la victoire, et quand elle était de mauvaise humeur, leur donnait la défaite. Donc, c'était une déesse très inconstante, et il fallait savoir la séduire. et il lui a été très attaché. Aussi, il y a la felicitas. Alors la felicitas, c'est la félicité, comme on pourrait dire, mais ce serait un faux sens, ce serait une mauvaise traduction. C'est une notion qui n'existe qu'en latin. La felicitas, c'est la prospérité matérielle, le bonheur qui est attaché à la prospérité matérielle. Je crois que c'est peut-être la moins mauvaise définition qu'on puisse en donner. Et par là, il se rattache à Sylla, qui avait pris le surnom de Félix, l'heureux, le chanceux, celui qui donne la prospérité matérielle à l'État. Et puis, il avait une troisième divinité à laquelle il était très attaché, qui était Hercule. Hercule, c'est un demi-dieu, et c'est un personnage qui, dans le panthéon gréco-romain, avait la réputation d'être bon pour les humains. Et il lui était tellement attaché qu'après tous ces épisodes de guerre, quand il est rentré à Rome couvert d'or, il en avait déjà beaucoup avant, mais là il en avait encore plus, eh bien il a offert à Hercule le dixième de ses biens, de tous ses biens. La dîme de tous ses biens, c'est évidemment énorme. Bon, rassurez-vous, il lui restait pas mal d'argent, hein, il n'a pas fini dans la misère, mais c'est quand même un gros sacrifice. Et puis, alors, et là aussi, c'est quelque chose que nous, humains français du XXIe siècle, avons du mal à comprendre, il était superstitieux. Et Sylla l'était aussi, et on a conservé une lettre de Sylla en lui disant « Tu observes bien tous les signes qui peuvent être bons ou mauvais ». Et tu les respectes, c'est très bien. Continue, il faut que tu fasses cela jusqu'au bout de ton existence, ce qui veut dire donc que Sylla, comme Lucullus, étaient des gens superstitieux. Ces caractères superstitieux, évidemment, nous surprend quand nous voyons que Sylla était également un intellectuel, était en même temps un intellectuel de très haut niveau. Je vous ai dit qu'il était tout à l'heure bilingue et qu'il connaissait les langues vivantes, le latin et le grec, bien entendu. Et il connaissait tellement bien le grec qu'il avait dit un jour à un de ses amis « Je vais peut-être écrire une histoire de la guerre sociale ». Son ami lui a dit « Très bien ». Lucullus lui a dit « Écoute, j'hésite en ce moment, je ne sais pas si je vais l'écrire en prose ou en vers. Et puis je ne sais pas si je vais l'écrire en latin ou en grec ». Alors, donc, ce qui veut dire qu'il maîtrisait aussi bien les deux langues et les deux formes de discours. Et il dit, mais si je l'écris en grec, je laisserai passer quand même quelques formes, ce n'est pas des fautes, hein, mais quelques formes qui prouveront au lecteur que je suis un latin, que je suis d'origine latine. Et alors, il entre dans la catégorie donc, de ces gens qu'on appelait à l'époque les philhellènes. Cette culture se montre parce que, par une caractéristique qu'on avait trouvée déjà auparavant chez quelques grands aristocrates, au moment où ils se partageaient le butin, les dépouilles des vaincus, quelquefois, Lucullus disait simplement « Oh, je ne prends pas les esclaves, je ne prends pas l'or, je ne prends pas l'argent, je prends seulement la bibliothèque de l'ennemi ». Et il avait déjà une belle bibliothèque au départ. Je peux vous assurer qu'à l'arrivée, il a eu une très belle bibliothèque, très, très fournie. Alors, dans quel domaine s'est-il exprimé? Eh bien, dans des domaines, là, je vous dirais que j'ai fait des découvertes, des choses que je ne m'attendais pas à connaître. D'abord, dans l'éloquence. Il parlait très bien, et ça, c'était indispensable. Il était ami du recteur Hortensius, qui était un ami, il était ami de Cicéron aussi, qui, l'un comme l'autre, louait Lucullus pour sa façon de s'exprimer, sa façon de parler, la fluidité de son verbe, de ses discours. Il était aussi un historien, puisqu'il s'est penché sur la guerre des Mars. Et alors, il y a deux domaines qui sont beaucoup moins connus, et moi, je vous dirais que j'ai découvert ça en étudiant la vie de Lucullus. D'abord, la poésie. Et ça, aucun auteur n'en parle. Et j'ai trouvé un passage de Cicéron dans une lettre à un de ses amis où il lui dit « Mais quel est le sens exact de, je ne sais plus quel mot, il y a un mot sur lequel il voulait, il voulait trouver un sens précis. » Et il dit « Mais le plus simple, c'est de prendre le vers suivant de Lucullus. » Et donc il cite un vers de Lucullus. « Nous ne connaissons que ce vers de Lucullus poète. » Mais bon, s'il y a un vers, c'est qu'il y a au moins un poème, et que Lucullus était capable d'écrire cela. Et puis j'ai trouvé quelque chose d'encore plus important et qui est peu connu, mais Grimal dans son Cicéron en parle quand même. C'est un traité de Cicéron qui s'appelle tout simplement Lucullus. Ce traité, à ma connaissance, n'a jamais été traduit en français. À ma connaissance, il n'en existe que 3 éditions en latin, une avec une traduction en allemand. Et donc, j'ai fait venir, il y a une édition française, où vous avez le texte, j'ai eu le texte latin, donc j'ai plongé le nez dans le texte latin, et un commentaire en français. Et ce Lucullus, c'est ce traité de Cicéron, donc j'ai des amis qui m'ont promis qu'ils allaient en publier une édition et une traduction, et ce sera un travail très sérieux, mais c'est extraordinaire. Parce que ce traité de Lucullus, c'est un traité qui est tout à fait platonicien. C'est comme le Critias, le Banquet, etc. Vous avez 4 personnages, Cicéron, Lucullus, évidemment, Caton, et puis Hortensius, si je ne me trompe. 4 personnages qui se réunissent dans une des belles villas de Lucullus, et puis qui débattent de philosophie, mais alors d'une philosophie très approfondie. Ce n'est pas de la philosophie vulgaire comme en font quelques-uns de nos philosophes actuels. C'est quelque chose... Je ne vise personne. C'est une philosophie très, très érudite. C'est le principal problème, et le problème de la connaissance. Est-ce que la connaissance est possible? C'est une question qu'avait posée Platon. Rappelez-vous ce que disait Socrate, « Je sais cela seulement que je ne sais rien ». Donc il faut partir de cette position modeste. Et puis de là, il y a eu différentes écoles, différentes interprétations. Les uns disant que la connaissance est possible, les autres qu'elle n'est pas possible. Et d'autres penchant pour ce qu'on appelle le probabilisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui disent « nous n'avons pas de certitude, on ne peut pas avoir de certitude absolue, mais tout de même il y a des connaissances qui sont probables, des points de vue qui sont probables ». Voilà, donc j'ai découvert ce Lucullus philosophe, et surtout philosophe de haut niveau, philosophe très profond. Ce n'est pas tout. C'est aussi un esthète. Il était très attaché à ses constructions. Il avait des architectes qui l'utilisaient, mais ce qui l'intéressait, lui, alors, il n'a pas laissé de grandes places, de grands monuments, de temples, etc. Lui, ce qui l'intéressait, c'est d'avoir des villas. Il s'est fait construire plusieurs villas. Donc, il en avait une à Rome, qui est sous l'emplacement de l'actuelle Villa Médicis. Alors, ceux d'entre vous qui connaissent Rome, donc, connaissent cet endroit. C'est ce qu'on appelait les Orti Luculliani, les jardins de Lucullus, qui étaient à cet endroit. Il n'y avait pas que des jardins, il y avait une villa. Et il était normal, puisqu'il était un aristocrate, qu'il ait une villa dans Rome. C'était obligatoire. Tout sénateur devait avoir sa villa dans Rome. Et il s'était fait construire une très très belle villa. Elle a été fouillée d'ailleurs par des archéologues français. Et puis, il en avait d'autres qui étaient notamment en Campanie. La Campanie, c'était la côte d'Azur des Romains, où tous les aristocrates avaient de très très belles villas, Monaco ou Cannes, si vous voulez, pour prendre un équivalent moderne. Et dans toutes ces villas, il avait des bibliothèques. Il avait aussi cette chose extraordinaire qui sont des zoos et des viviers. Alors les viviers étaient alimentés en eau de mer, les villas étaient tout proches de la mer, ils mettaient des canalisations, et les zoos étaient remplis d'animaux, mais d'animaux qui se mangent. Il n'y avait pas d'éléphants, pas de lions, il y avait toutes sortes d'oiseaux, notamment, parce qu'il aimait les oiseaux, et puis des animaux qui se mangent, notamment des grives. Et un jour, son ami ennemi Pompée, là, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, Pompée était malade. Il fait venir un médecin et le médecin l'examine, lui propose un remède tout à fait intéressant. Bon, je vous le conseille si vous êtes malade comme Pompée. Il lui dit, il faut que tu manges des grives. Le problème est qu'à cette saison de l'année, il n'y avait pas de grives. On n'en trouvait pas sur le marché. Et Pompée s'est dit, ah ben oui, mais peut-être que... Lucullus en a, et il a envoyé quelqu'un demander à Lucullus une grive, et Lucullus en avait dans son zoo. Il lui a livré une grive, et Pompée a fait remarquer à ses amis, si Lucullus n'avait pas été gourmand, Pompée serait mort. Bon, je ne crois pas qu'il serait mort, mais enfin, Alors, ces villas étaient aussi immenses, avec des galeries, des portiques, des grandes salles de réception, des grandes salles de banquet, tout le luxe qu'on pouvait avoir, et notamment des peintures et des sculptures auxquelles il tenait beaucoup, qu'il avait soit acheté en Orient, dans ses campagnes, soit ramené au titre de butin, car il pouvait, comme butin, prendre une bibliothèque ou prendre des tableaux ou prendre des sculptures. Et tout ce qui était art grec, peinture et sculpture, lui plaisait beaucoup. On sait qu'il en a ramené pas mal. Alors il sait, et voilà ce personnage que vous voyez, extrêmement complexe, et qui est passé à l'histoire parce que, et méritait de le passer à l'histoire, parce qu'il a été un excellent général. Et il s'est illustré notamment contre Mithridate, qui était le roi du Pont. Alors, Mithridate, c'est un personnage qui est tout à fait curieux. C'est, pour le définir, alors le Pont, c'est donc la région qui est au nord de la carte suivante, s'il vous plaît. On reviendra sur celle-ci, mais... Voilà, un personnage, donc le Pont, c'est le territoire qui se trouvait au nord de l'Anatolie. Il occupait ce royaume et c'était un barbare hellénisé. C'est-à-dire qu'il était en partie macédonien, sa mère était macédonienne, elle était apparentée à Alexandre le Grand, et son père était d'origine iranienne, en fait, d'une famille iranienne. Voilà, donc vous voyez où se trouvait le Pont. Or, ce Mithridate était un personnage très ambitieux. Il avait commencé à étendre son influence ou son autorité au nord de la mer Noire et au sud également, à l'est, vers l'ouest. Et il a profité d'un mouvement d'hostilité contre les Romains qui était devenu extrêmement violent dans cette région. En effet, dans cette région, il y avait d'abord tout à fait à l'ouest la province d'Asie qui avait un gouverneur romain. Et ce gouverneur de la province d'Asie était un personnage, les gouverneurs de la province d'Asie étaient des personnages systématiquement arrogants, méprisants, même pour les Grecs, dont ils admiraient pourtant la culture. Et ils appuyaient sans réserve les hommes d'affaires italiens. Et en effet, il y avait des dizaines de milliers d'Italiens qui s'étaient précipités sur cette région pour y faire des affaires et pour s'y enrichir. Alors, ils avaient un système très simple qui était mis en accord avec le gouverneur romain et puis en dehors de la province romaine avec les chefs d'État, les roitelets, chefs de peuple, etc., différents. Donc, ils suggéraient aux dirigeants de mettre des impôts très élevés. Les habitants ne pouvaient pas payer de tels impôts, donc ils empruntaient de l'argent et ils l'empruntaient à ces commerçants italiens, à ces hommes d'affaires italiens. Et un an, deux ans, trois ans après, l'homme d'affaires italien arrivait et disait « Mais il faut que tu me rendes l'argent que je t'ai prêté ». Évidemment, le personnage n'était pas capable, n'avait plus pas les moyens de rembourser ces sommes d'argent. Et dans ce cas-là, les hommes d'affaires disaient « Ah ben écoute, tu ne peux pas ». Tu as un fils, tu le vends comme esclave. Tu as une fille, tu la vends comme esclave. Alors, elle finira au lupanar, elle finira, etc. Bon, inutile de vous dire que les gens commençaient par détester farouchement ces hommes d'affaires italiens, impitoyables, cruels, et ces gouverneurs arrogants. Du coup, Mithridate promulgue en 88... un décret qui est terrifiant. Il demande à tous les habitants du monde, tous ceux qui le veulent, en tout cas ceux qui le peuvent, de tuer les hommes d'affaires italiens, de les mettre à mort, tout simplement. Égorgez-les, fracassez-leur le crâne, comme vous voulez. Tuez-les, il faut les éliminer. Ce sont des gens qui sont néfastes et qui sont cruels. Le résultat est que tous les gens de l'Anatolie et tous les gens de la Grèce également, les Athéniens notamment, ont appliqué le décret de Mithridate qu'il y a eu dans cette région en 88, un énorme massacre. On pense que 80 000 Italiens ont été tués en quelques semaines à la suite du décret de Mithridate. Évidemment, l'État romain ne pouvait pas laisser passer cela, et l'État romain nomme Sylla, demande à le Sénat romain demande à Sylla de partir en Grèce avec une armée, d'y rétablir l'ordre d'abord. Alors donc, il est logique de rétablir l'ordre en Grèce d'abord, avant de le rétablir en Asie mineure. Donc Sylla débarque, et la première chose qu'il doit faire, c'est s'emparer du Pirée, puis d'Athènes, qui étaient révoltés contre lui, et les gens s'étaient réfugiés derrière leurs remparts. Donc les villes sont assiégées, on a retrouvé des archéologues, on retrouvait la preuve matérielle de ce siège. Les soldats romains, qui avaient le sens de l'humour, avaient envoyé des balles de fronde contre les Athéniens, qu'ils étaient à Athènes ou au Pirée, avec des petits messages dessus, leur demandant notamment de parer leurs épouses, car eux, les Romains, arrivaient. Et vous devinez quels étaient le projet de ces légionnaires. Le Pirée et Athènes ont été pris par les légionnaires. Sylla en a tiré vengeance. Puis il est passé au nord, en Béotie. Il a remporté de grandes victoires à Chéronée et Orchomène. Et Mithridate a été chassé de Grèce. Donc les soldats de Mithridate, qui étaient venus soutenir les Grecs révoltés, ont été obligés de repasser en Anatolie. C'est alors que Lucullus, qui était jusque-là resté en Italie où il faisait sa carrière, est venu une première fois en Orient soutenir Lucullus. Alors Lucullus d'abord, Sylla tout d'abord a demandé à Lucullus de s'occuper des questions financières. En fait, une armée qui est en guerre a des problèmes financiers très importants. Il faut acheter des vivres, il faut acheter de l'armement, du matériel, tout ce dont peuvent avoir besoin les soldats, du bois, du fer, du blé, de l'huile, du vin, etc. Et Lucullus a réussi à réorganiser les finances de Sylla de telle manière qu'il a pu faire des achats auprès des amis, parce que les amis, on ne les pillait pas, on leur payait ce qu'on leur prenait, on pillait chez l'ennemi, bien entendu, mais pas chez l'ami. Et à cette occasion, Lucullus a créé des monnaies qui ont été tellement bonnes qu'elles sont restées en usage pendant très longtemps en Grèce, et les numismates, les spécialistes de numismatique, appellent ça les monnaies lucullaines, qui sont restées en usage très longtemps. Lucullus ayant réussi à fournir à Sylla les moyens financiers dont il avait besoin, revenait en arrière, la carte numéro 2, il a chargé Lucullus de devenir son amiral. C'est-à-dire qu'il lui a dit, eh bien, écoute, tu vas aller chercher des vaisseaux chez les gens qui peuvent être nos amis. Alors il est parti d'abord en Crète, la Crète était sylanienne à fond, pas eu de problème, sauf que les Crétois n'avaient pas de navire. Donc, un coup pour rien. Il est allé ensuite à Cyrène. Même chose, les Cyrénéens lui ont dit, mais là, nous, on a un problème, c'est nos Juifs sont révoltés. Alors, les Juifs de Cyrène sont perpétuellement révoltés dans l'histoire romaine. Donc, Lucullus a été obligé de mettre de l'ordre là-dedans. Et puis, pas de navire non plus. Il est allé ensuite en Égypte, où il y avait un roi pharaon, qui était un personnage très important du point de vue de la richesse et qui avait beaucoup de moyens. Mais ce qui est très intéressant et très original, c'est que, très curieux, c'est que le roi pharaon, qui était un Macédonien, d'ailleurs, un des descendants des généraux, un Lagide, descendant des généraux d'Alexandre le Grand, le pharaon est très embêté, il ne veut pas se fâcher avec les Romains, et il ne veut pas se fâcher non plus avec les Pontiques, avec Mithridate, qu'il redoute. Alors, il refuse les navires à Lucullus. Il lui dit, non, je n'en ai pas, j'en ai besoin, etc. Ils ne sont pas bons, il faut les réparer, etc. Et il lui donne de l'argent en échange. Lucullus accepte ce qui doit revenir à l'État romain et refuse ce qu'on lui donne à lui comme cadeau, ce que le pharaon veut lui donner. Il accepte juste une coupe pour obliger le pharaon, lui dire « j'accepte tes cadeaux, mais je ne veux pas être enrichi et acheté par toi ». Toujours l'échec, il remonte vers le nord. Et là, ce qu'il n'attendait pas, il l'a. Les cités de Phénicie lui donnent des navires. Il passe à Chypre. Là encore, n'obtient pas grand-chose, mais il a déjà une petite flotte qui est constitué et qui permet à Scylla de contrôler une partie de la mer. Et enfin, il revient dans la province d'Asie, au sud de la province d'Asie, et là, l'amiral se transforme en général. Il entreprend, la carte suivante s'il vous plaît, il entreprend donc la reconquête de la province d'Asie qui avait été perdue par les Romains et contrôlée par les Pontiques. Puis Lucullus doit quitter, et là il se montre un très bon général, hein, toute la province d'Asie est nettoyée et il doit retourner à Rome parce que bon, il a des affaires à régler. Et tout aurait pu se terminer là si le roi de Bithynie, alors la Bithynie, c'est la région qui est au nord-ouest de l'Anatolie, le roi de Bithynie n'était mort à ce moment-là. Et quand on ouvre son testament, c'est une chose qui est assez fréquente dans l'Antiquité. On découvre que l'héritier du royaume de Bithynie, ça n'est pas son général, son fils, son petit ami, c'est le peuple romain. Il donne son royaume au peuple romain. Inutile de vous dire que les pontiques, Mithridate, n'est pas content du tout et qu'il se lance son armée sur la Bithynie pour la contrôler et en chasser les Romains. C'est à ce moment-là que Lucullus, qui est devenu consul, nous sommes en 74 avant Jésus-Christ, Lucullus, qui est devenu consul, est amené à intervenir en Asie. Alors il y a d'abord l'affaire de Chalcédoine. Chalcédoine, c'est un port dans lequel qui était lié aux Romains. Et l'autre consul s'enferme dans Chalcédoine avec l'espoir d'en faire une base fortifiée. Mais Lucullus l'encercle. Et il est vraiment très, très embêté. Et Mithridate encercle Chalcédoine et le consul Cotta dans Chalcédoine. Et c'est Lucullus qui arrive et qui délivre Chalcédoine, chasse les Pontiques et permet à Cotta de retrouver la liberté. Et cette affaire de Chalcédoine, cette affaire de Chalcédoine pour Lucullus a été extrêmement importante. Il s'en est beaucoup vanté par la suite et elle a été comptée à son honneur. Ensuite, il y a eu l'affaire de Cyzique. Cyzique, c'est un peu la même chose que Chalcédoine, sauf que la ville était pro-romaine et assiégée par les troupes de Mithridate. Et elle est libérée, bon, c'est ce qui n'est pas important. Moi, ce qui m'intéresse à ce propos, c'est de montrer ce qu'était la religiosité et même la superstition de Lucullus. Car il y a des miracles qui se produisent et qui permettent aux Romains de gagner. D'abord, je passe sur un petit épisode qui est assez étonnant. Un nageur de combat intervient. Lucullus veut faire savoir aux habitants de Cyzique qu'il va les libérer. Et il trouve un bonhomme qui savait nager sous l'eau et rester très longtemps sous l'eau sans respirer, sans sortir à l'air. Ce bonhomme passe sous les navires pontiques, arrive dans Cyzique et dit aux gens « Attention, ne vous inquiétez pas, Lucullus arrive avec des troupes ». Et il y a, pendant ce siège, quatre événements exceptionnels, extraordinaires. Je sais que vous n'allez pas y croire, hein, mais vous avez tort. Le premier, c'est que c'est une génisse qui traverse le détroit à la nage, qui arrive dans la ville de Cyzique et qui vient se poser sur un autel pour être sacrifiée, être offerte en sacrifice. Ensuite, il y a une déesse, on ne sait pas laquelle, enfin une déesse, qui apparaît à un magistrat de Cyzique qui lui dit « Écoute, ne t'inquiète pas, les Romains arrivent, tu vas être sauvé. » Ensuite, ce n'est pas tout. Ne souriez pas, il y a une tempête qui très violente et qui détruit toutes les machines de siège des Pontiques. Les habitants, évidemment, de Cyzique sont très heureux. Ils en sont très contents. Enfin, là encore, vous allez sourire, mais vous avez tort, la déesse Athéna, que les Romains appellent Minerve, apparaît aux habitants de Cyzique et leur dit « Ne vous inquiétez pas, Lucullus arrive et va vous libérer ». Alors, à partir de là, évidemment, bon, Cyzique est libérée et Lucullus, avec ses troupes, libère l'Asie puis la Bithynie, chasse les pontiques d'Asie et de Bithynie, malgré une peste terrible, au cours de laquelle les soldats pontiques affamés mangent des cadavres, ce qui évidemment accroît les effets de la peste et fait disparaître beaucoup de gens. Et Lucullus réussit à remporter des victoires, notamment au Rhindacos, qui est absolument extraordinaire et intéressant. Le Rhindacos, c'est un petit fleuve qui se trouve au nord-ouest de l'Anatolie. Les Romains et les Pontiques sont les uns et les autres à même hauteur sur des collines, entre les deux, sur des hauteurs, entre les deux, il y a un fleuve. Et les légionnaires descendent la pente, ce qui veut dire qu'ils se mettent en infériorité par rapport aux Pontiques. Ils sont capables de remonter la pente en face et de détruire l'armée pontique. Autre victoire au Granique, c'est un autre fleuve qui est voisin, que Lucullus remporte. Cette victoire du Granique, ça a une connotation psychologique très intéressante, évidemment, puisque c'est là qu'Alexandre le Grand avait remporté une victoire. Lucullus dit, voilà, je peux dire dorénavant, j'ai fait comme Alexandre, j'ai vaincu au Granique. Les populations de cette région le comprennent bien et ils organisent des fêtes en l'honneur de Lucullus, qu'on appelle les Luculeia en latin, ou en grec aussi d'ailleurs, les Luculeia, qui font que ce sont des fêtes en l'honneur de Lucullus, mais ça veut dire que Lucullus, eh bien, ça n'est pas seulement un humain, hein, c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus que les humains. C'est très important, évidemment, pour la suite de sa carrière. Je passe sur les détails, le reste des détails des batailles. Il réussit donc à chasser les pontiques du pont Euxin, puis il occupe le pont lui-même. Il envoie une partie des troupes par le long du littoral, qui prennent les villes les unes après les autres. Lui fait un détour par le sud. Il attaque le pont par la montagne, à travers la montagne. Et c'est en descendant de l'autre côté des montagnes, vers la mer, qu'une ville lui résiste farouchement. Et il est fort fâché. Quand il prend la ville, il fait tuer tous les habitants, détruire la ville, incendier, etc. Et puis une fois qu'il est devant un désert, il regarde autour de lui et il voit, cette ville s'appelait Kerasos, il voit autour de la ville des arbres qui avaient des fruits très rouges et très beaux. Il va les goûter et en latin, Kerasos, ça se dit Cerasus, et c'est de là que vient le nom de cerise. Il venait de découvrir les cerises. Il est le maître de l'Anatolie. Reste que Mithridate va se réfugier chez son gendre, qui est le roi Tigrane d'Arménie. Nous sommes maintenant en 71, et Lucullus doit mener la guerre contre Tigrane, roi d'Arménie, ce qu'il fait de manière extraordinaire. Donc je pense qu'il doit y avoir une carte d'Arménie ensuite. Il y a que la bataille, voilà, la bataille de Tigranocerte. Donc, il réussit à pénétrer en Arménie. Mais enfin, bon, tout le monde sait que l'Arménie est une montagne extraordinaire. Hein. Au mont Ararat, il y a 5165 mètres. Hein. C'est un sommet extraordinaire. C'est une région tout à fait montagneuse. Il réussit à gagner une guerre en montagne. Et il se dirige vers Tigranocerte, qui est la capitale du roi Tigrane, qui a le nom du roi Tigrane. Il y a une bataille devant Tigrane. Vous voyez le schéma. L'astuce de Lucullus, qui est de faire monter une partie de ses troupes sur une colline, qui prend à revers une partie des troupes arméniennes et qui permet ainsi de gagner la guerre, la bataille. Ensuite, il assiège la ville et réussit à la prendre, et il libère tous les gens qui étaient là. C'est aussi une caractéristique de cette époque. Beaucoup de gens étaient des gens déplacés. Le roi Tigrane, Mithridate l'avait fait, Tigrane l'a fait, les généraux romains l'ont fait aussi, ont déplacé des populations. Et dans Tigranocerte, il trouve des Grecs, notamment, qui avaient été pris comme esclaves et prisonniers là-dedans, mais aussi des Iraniens, des pontiques, des gens de différentes nationalités, et il les libère tous, il leur donne à tous la liberté. Mais à ce moment-là, le commandement de Lucullus est terminé, et il va être remplacé par Pompée. Il y a deux lois, la loi Manilia et la loi Gabinia, ou plus exactement Gabinia d'abord et Manilia ensuite, qui donnent le pouvoir à Pompée. Et ces deux amis ennemis, parce qu'ils sont du même parti, hein, ils sont des optimates, des traditionalistes, des aristocrates traditionalistes, ils sont du même parti, ils s'estiment, ils se rencontrent volontiers, ils vont dîner ensemble, etc. Mais là, ça se passe mal. Il y a un conflit entre les deux. Pompée veut prendre le pouvoir, exercer le commandement de l'armée romaine, et Lucullus ne veut pas lui laisser. Et finalement, c'est les soldats qui désobéissent à Lucullus, passe dans les rangs des Pompéiens, et Lucullus n'a plus qu'une chose à faire, c'est rentrer à Rome. Alors Mithridate meurt peu après. Vous savez qu'il s'était mithridatisé, comme on dit, hein, en avalant un peu de poison tous les jours. Il était devenu résistant au poison, mais ça, c'est une légende. J'ai demandé à des pharmaciens, notamment à mon gendre, ce qu'il en pensait, et ils m'ont dit que c'était vraiment très, très difficile. D'abord, il y avait beaucoup de possibilités de poison à utiliser, donc il aurait fallu qu'il avale beaucoup de poison. Et puis, pour certains poisons, ça ne marche pas du tout. Hein. Donc, la mithridatisation est très largement un mythe. De toute façon, il s'est fait achever à l'épée en 63 avant Jésus-Christ. Lucullus en a quand même profité pour célébrer un triomphe, et il s'est mêlé à la vie politique de Rome. Je ne peux pas entrer dans le détail, ça nous amènerait peut-être un peu loin, sinon pour l'affaire de la Bona Dea, la bonne déesse. Il y avait un culte qui était pratiqué à Rome en l'honneur d'une divinité qu'on appelait la bonne déesse, qui était célébrée surtout une fois par an, qui devait être célébrée dans la demeure d'un aristocrate romain. Et dans cette demeure, il ne devait y avoir ce jour-là et cette nuit-là que des femmes. Les hommes étaient interdits, devaient partir, se débrouiller, aller ailleurs. Même les statues masculines étaient voilées, de façon à ce que les yeux des morts ne puissent pas voir ce qui se passait dans cette cité, dans cette ville, dans cette maison, pardon. Et on découvre brusquement ce soir-là une voix masculine, c'était Claudius, l'ennemi mortel politiquement et militairement aussi d'ailleurs de Lucullus, qui en profite, il est fou de joie, Lucullus, il a commis un sacrilège, on va le faire condamner. Et Claudius se défend très astucieusement, notamment d'une manière absolument scandaleuse. La veille du procès, il emprunte de grandes sommes d'argent, tout ce qu'il peut comme argent, tout ce qu'on peut veut bien lui prêter, et il achète les jurés, tout simplement. Et c'est ainsi qu'il est acquitté. Alors, le reste de sa vie, si c'est, Lucullus passe le reste de sa vie de manière agréable, d'un épicurisme d'intellectuel, dans des longs débats philosophiques, dans des discussions avec des Grecs. Il adorait les Grecs, hein, même les plus ordinaires. Parler grec était pour lui un grand plaisir, il en recevait beaucoup. Il organisait des banquets, et au cours desquels on mangeait des repas, des aliments tout à fait absolument extraordinaires, notamment des loirs. Je ne sais pas si vous avez envie de manger du loir. Enfin bon, farcissez les loirs avec une quenelle de porc et de la chair pilée de leurs membres, accompagnée de poivre, de pignon, de lazer et de garum. Le garum, c'était une sauce analogue au gnocchmam. Après les avoir recousus et placés sous une tuile, mettez-les au four ou bien, une fois farcis, cuisez-les autrement. Donc, en fait, cette cuisine d'Apicius est immangeable et il est impossible de la préparer parce que ça demande trop de moyens, trop de produits divers. Quoi qu'il en soit, donc, Lucullus vit dans ce luxe jusqu'à la fin de sa vie. Il meurt en 56, probablement de mort naturelle, bien que ses ennemis aient dit qu'il était devenu fou sur le tard. Alors au total, c'est un personnage complexe, qui est normal évidemment, qui était certainement, du point de vue historique, plus important qu'on ne l'a dit, qui a eu une action réellement importante et qui illustre une période de crise, crise politique dans laquelle il a vécu, mais aussi une période de combat victorieux pour les Romains, ce qui ne nous surprendra pas. Et au total, ce qu'était Lucullus, ce n'était pas un gourmand, ce n'était pas un général, ce n'était pas un juriste, c'était un aristocrate, c'était un noble. Voilà, je vous remercie pour votre attention.